Pour le reste, nous aurons l'occasion de nous entretenir en Géorgie. Merci d'être parmi nous encore une fois. Merci, Anna Fotiga. Merci, Efa Kali. Chers collègues, nous avons une heure. Nous avons 25 demandes de parole. Donc, tâchons de respecter un délai de 2 minutes par intervenant. Nous ne dépasserons pas ce délai. Pas même de 15 secondes. Et nous allons essayer d'entendre le plus grand nombre de collègues possible. Et lorsque M. Stoltenberg jugera bon d'intervenir, il interviendra. N'oubliez pas de ne pas dépasser 2 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 2 minutes. Michael Galler pour le PPE. Merci. Bienvenue à notre commission. Je fais partie de ceux qui sont en faveur d'un cadre autonome en Union européenne pour la défense. Et cela s'explique parce que la Turquie, dont on a déjà parlé, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais bien de l'OTAN, a un droit de veto au sein de l'OTAN, même si la Turquie ne fait pas partie de l'UE. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Union européenne doit avoir les coups des franges lorsque nécessaire pour éviter d'être confrontée à ce veto, notamment lorsque l'Union européenne pense que des interventions s'imposent et que la Turquie ne l'entend pas de cette oreille. Avez-vous eu des indications? La Turquie a une actualité que nous connaissons tous, mais cette actualité a-t-elle des retombées sur la façon dont les affaires courantes sont prises en charge en Turquie? De nombreux officiers ont demandé l'asile politique parce que de nombreux officiers turcs ne savent pas quel sera le sort qui leur sera réservé lorsqu'ils rentreront chez eux. Y a-t-il des États membres désireux de les accueillir pour leur éviter un emprisonnement certain lors de leur retour en Turquie? Ensuite, s'agissant des doublons. Alors, la mission dans la Corne de l'Afrique était gérée par l'OTAN et l'Union européenne. Maintenant, nous avons la mission SOFIA en Méditerranée. Et à ce sujet, ne serait-il pas préférable de faire la part des choses, de déléguer soit à l'OTAN, soit à l'Union européenne la gestion de cette mission? Nous serions peut-être alors plus efficaces. Qu'en pensez-vous? 2 minutes. Très bien. Knut Fleckenstein pour les socialistes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais faire 2 remarques. En ce qui nous concerne, nous voulions parler du partage des tâches. Il ne s'agit pas d'être en concurrence les uns avec les autres, mais je crois qu'il y a 2 objectifs que nous devons tous réaliser en tant que partenaires de l'OTAN. Notamment, étant donné les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons pouvoir être capables de mener à bien les tâches supplémentaires, d'autant plus que je pense que les États membres devraient pouvoir, États membres de l'OTAN s'entend, devraient pouvoir travailler ensemble de manière plus efficace, de pouvoir, grâce à plus de recherches, mener à bien les tâches qui leur sont assignées. Votre intervention sur le partage du fardeau est importante. Nous sommes tous ici au clair. Nous devons en faire davantage que par le passé. Il importe également que nous nous concentrions sur l'essentiel. Nous devons être à l'avenir beaucoup plus efficaces. Nous devons en faire davantage. Et ce renforcement des dépenses au titre de la défense n'est pas une fin en soi. Je crois qu'avec l'argent disponible, avec le budget disponible, nous devons pouvoir être plus efficaces. C'est cela l'objectif. Et je crois que pour ce faire, davantage d'investissement est nécessaire. C'est la raison pour laquelle je pense que l'efficacité sera le maître mot. Par ailleurs, davantage de fonds seront nécessaires. Dernière intervention, s'agissant du partage du fardeau, il convient de dire que le fardeau doit également être déterminé en prenant en considération l'aide au développement, c'est-à-dire tout ce volet civil du fardeau. Il faut que tout le monde puisse mener à bien les tâches assignées. Merci, Knut Fleckenstein. Monsieur Tannock, merci. Nous sommes rendus compte que par le passé, nous n'avions pas été efficaces. L'Union européenne et l'OTAN peuvent coopérer pour faire face aux nouvelles menaces qui nous viennent de l'ISIS, qui nous viennent de la Russie. Nous nous réjouissons de l'arrivée prochaine du Monténégro. Le président Trump a la position que nous connaissons s'agissant de l'OTAN. Mais qu'en est-il des contacts entre l'Union européenne et Kim Jong-un, président de la Corée du Nord? Nous voyons que maintenant nous avons dépassé aux États-Unis les 2% au titre de la défense. Donc, ainsi que nous l'avons dit, le Royaume-Uni restera un protagoniste de choix s'agissant de la défense. Et en tant qu'ancien Premier ministre de la Norvège, vous savez de quoi je parle. Pensez-vous que le Royaume-Uni va suivre le modèle de la Norvège? Qu'en sera-t-il de les dépenses au titre de la défense une fois que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne? Pensez-vous que le modèle suédois sera également copié par le Royaume-Uni? L'article 5 sera-t-il évoqué pour protéger la population en cas d'attaque? Donc, moi, je serais en faveur d'une déclaration d'une déclaration du Royaume-Uni au titre du respect de l'article 4.2.7.2.2.2 de la Convention pour éviter les problèmes relatifs à l'appartenance et la non-appartenance de pays à l'Union européenne, de manière à ce que ces pays puissent rester des partenaires, des amis. Merci, Charles. Madame Waldmans.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, je m'exprimerai en néerlandais. J'attends que vous ayez chaussé vos écouteurs. Je vous remercie de votre présentation. Je suis très heureuse qu'au début de votre exposé, vous ayez dit que la coopération entre l'OTAN et l'Union est devenue la norme, alors que par le passé, c'était plutôt l'exception. Il est bon qu'au niveau européen, nous en prenions conscience et nous devons nous en féliciter. Quelques points. D'abord, lorsque le nouveau président des États-Unis a été élu il y a quelque temps, nous avons été, comment dirais-je, choqués ou surpris par les déclarations du nouveau président disant que l'Europe ne devait plus pouvoir compter sur les États-Unis, que nous devions en fait balayer devant notre porte. Mais bon, en fin de compte, nous savons ce qu'il en est. Alors, que pensez-vous maintenant des déclarations du président américain et comment allez-vous traiter cela lors du sommet prochain de l'OTAN? Deuxièmement, quid de nos rapports avec la Russie? La Russie est un pays voisin de l'Europe et nous avons des relations extrêmement difficiles avec la Russie. Quelle est la stratégie que compte mettre en œuvre l'OTAN dans une perspective d'avenir? Troisièmement, c'est un point qui a déjà été abordé par mes collègues, la Turquie. Hier, en commission affaires extérieures, nous avons approuvé un rapport d'avancée, qui était plutôt un rapport de recul, dans lequel nous avons constaté que la Turquie ne pourrait adhérer à l'Union en l'état actuel des choses. Mais qu'en est-il au sein de l'OTAN? Enfin, les citoyens européens, lors du dernier sondage, dans le cadre de baromètre européen, demandait que la sécurité devienne la très grande priorité. Là, l'OTAN a bien sûr aussi un rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pouvons-nous en fait accélérer cette lutte et comment comptez-vous vous y prendre? Je vous remercie.
And now we come to Mrs. Lösing for GUE.
Merci, Madame Lösing pour la GUE. Merci. Première question. le quartier général de l'Union européenne. Qu'en est-il des capacités de gestion? Vous avez parlé de la planification militaire, mais ces QG seront-ils amenés à prendre des décisions exécutives? De nombreux pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, étaient contre l'idée de tels quartiers généraux par le passé. Ma question est de savoir si maintenant vous pensez que ce soutien va se poursuivre, les plans vont-ils se concrétiser, les compétences de ce quartier général se concerneront également le volet militaire. Qu'en pensez-vous? Une question concernant les projets communs concrets. 42 projets sont prévus. Donc 42 projets, disais-je, entre l'Union européenne et l'OTAN sont prévus. Vous avez parlé de projets en Méditerranée, vous avez cité comme exemple la mission Sophia, autant de projets que nous connaissons. Ma question est dès lors de savoir si davantage de projets sont prévus, si oui, dans quelle région s'agit-il de projets maritimes communs. Dernière question. Le renforcement de la coopération de l'UE et l'OTAN aura-t-elle des retombées sur des pays neutres comme l'Irlande? Ce renforcement de la compétence est-elle conciliable avec la neutralité de l'Irlande, par exemple? Madame Valero, pour les Verts. Merci. Deux questions, notamment la coopération au titre de la migration en Méditerranée. Il est impossible d'utiliser des ressources militaires pour endiguer les flux migratoires, n'est-ce pas? Ma question est donc de savoir si des mesures seront prises s'agissant de la migration. Parce qu'en Méditerranée, ces missions implique le sauvetage de migrants dans la mer. Bon, bien sûr, la Suède ne fait pas partie de l'OTAN, donc nous n'avons pas à respecter ce critère de 2% du PIB, mais quelles sont les retombées de ces 2%? C'est ça ma question. En fait, je ne pense pas que la question concerne combien nous investissons, mais quel est le retour sur investissement. Ainsi que l'ont dit mes collègues, les projets sont nombreux, mais si nous n'avons pas assez de personnel, que faire? Il faudrait recruter. Mais le problème est qu'il est difficile de recruter du personnel de qualité pour la défense. Et peut-être qu'en le cadre de ces projets, il serait même possible d'économiser de l'argent dans la défense européenne. Donc, gardons-nous de nous concentrer exclusivement sur la quantité, mais bien la qualité de l'investissement au titre de la défense.
Nobody from the EFTD group has...
Personne du groupe EFTD, Monsieur Schaffhauser, vous n'avez pas changé de parti, je ne pense pas, non? Alors, nous en arrivons au neuf. Monsieur Borghesio. Apparemment, il y a quelques problèmes pour ce qui est de la cabine italienne. Vous pouvez vous exprimer en italien, mais malheureusement, vous ne pourrez pas entendre l'interprétation en italien. Monsieur Borghesi, 2 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, vous avez bien souligné qu'il y a un engagement prioritaire de l'OTAN sur la nécessité de bloquer le flux des migrants illégaux et pour la lutte au terrorisme. Je souhaite que cette lutte sera conduite avec les meilleures vues. Et sur ça, je vous demande ça. Comme vous connaissez bien, la Méditerranée est devenue depuis longtemps une espèce d'autoroute de mer pour les trafiquants, les passeurs de migrants illégaux. Mais dans les dernières semaines, il y a eu une explication terrible de la part des autorités de la justice italienne, c'est-à-dire que aucune, pas toutes, mais aucune ONG internationale qui ont mystérieusement des financements pas obscurs, très obscurs, et qui ont les pavillons des paradis fiscaux, ils sont liés directement avec des liens démontrés par les interceptions téléphoniques avec les trafiquants. Et il y a le suspect que dans cette affaire, il y a des liens aussi avec la possibilité d'infiltration de terroristes islamiques. Et c'est aussi à votre connaissance que le départ de la grande majorité des navires des illégaux, il part de la Cyrénaïque, qui c'est une côte de la Libye totalement contrôlée par des milices à sa fois contrôlées par les djihadistes. Et comment l'OTAN s'engage à contraster cette réalité qui a été dénoncée, je répète, par le procureur de la République de Catane en Sicile, donc une autorité indépendante. Merci.
Okay, thank you for...
Merci beaucoup, monsieur Borghesio, de vous être exprimé en français. Encore un orateur. Monsieur Epitidéus, dit non inscrit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. À l'instant, vous nous avez dit que l'OTAN souhaiterait avoir un rapport renforcé avec l'Union. Les membres de l'Union, eh bien, parmi ces membres, seule la Grèce et Chypre sont confrontés à une véritable menace de la part de la Turquie. Le président Erdogan a menacé la Grèce, a menacé Chypre récemment, pour ce qui est notamment des forages pour le gaz naturel dans les eaux près de ces pays, ce qui pourrait véritablement être un casus belli. Dès lors, il n'est que logique de penser que la Grèce et Chypre est un niveau de dépenses en matière de défense très important. Mais nous devons tout de même nous interroger. Il faudrait tout de même qu'il y ait une défense importante de la part de l'Union et de la part de l'OTAN. Alors, que comptez-vous faire pour nous défendre contre ce type de menace? Quels sont les plans d'urgence en place pour faire face à ce type de menace? Et comment y préparer nos forces? Merci. Merci beaucoup. Voilà pour ce qui est de la première série de questions. Monsieur le secrétaire général, c'est à vous de décider de la longueur de vos réponses. Mais sachez tout de même qu'il y a quelques collègues qui voudraient encore intervenir. Mais c'est à vous d'en décider, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions. J'essaierai de répondre à la plupart des questions. Peut-être ne pourrais-je pas répondre à toutes les questions, parce qu'il faut tout de même vous laisser le temps de poser d'autres questions. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir exprimé des sentiments de sympathie pour ceux qui ont perdu la vie et qui ont perdu les êtres chers lors de l'attaque à Kaboul ce matin. Ce qui illustre à quel point la situation en Afghanistan est extrêmement difficile, ce qui souligne bien l'importance de la présence de l'OTAN, notamment en matière de conseil, d'assistance auprès des Afghans pour qu'ils puissent véritablement affronter ce type d'attaque terroriste. Il n'y a pas à ce jour une proposition pour modifier le mandat du système de soutien. Il s'agit donc surtout de système d'assistance. Mais bien sûr, il faudra prendre un certain nombre de décisions dans ce contexte-là aussi, en temps utile, plus tard, au mois de mai ou encore au mois de juin. Alors, vous avez posé une autre question sur la lutte contre la migration. D'autres d'entre vous en ont parlé également. Alors, je réponds en même temps à ces différentes questions. Bien sûr, ces flux migratoires exigent une réponse de la part tant des États que des organisations internationales. L'UNHCR, l'Union, les différentes institutions, ce n'est pas à moi de répondre au nom de toutes ces institutions et de tous ces États. Tout ce que je puis vous dire, moi, c'est de vous dire comment l'OTAN peut contribuer à aider la communauté internationale, l'Union et les différents États à affronter cette crise des réfugiés. N'oublions pas que c'est là une tragédie humanitaire. Des milliers ont perdu leur vie, la vie. C'est, qui témoigne des conditions de vie extrêmement difficiles dans bon nombre de pays en dehors de l'Europe. L'OTAN, que fait-elle? D'abord, en partie en s'adressant aux racines des problèmes. Nous avons voulu aider à la stabilisation de l'Afghanistan et la raison pour laquelle nous voulons également lutter contre le terrorisme en Irak, de concert avec la Jordanie, la Tunisie, c'est dans un effort de stabilisation de l'ensemble de la région. En essayant d'alléger les raisons de départ. S'il sera possible de mettre en place une situation de sécurité, eh bien, les personnes seront moins enclines à quitter leur pays. Et aussi, bien sûr, parce que la stabilité et la paix est une condition préalable pour le développement économique. Donc, ceux qui quittent les pays, non pas pour des conflits, mais pour des problèmes de pauvreté, en mettant en place une situation de stabilité et de paix, nous faisons le terreau de la prospérité économique. Et dès lors, les habitants resteront chez eux. L'OTAN n'est pas la réponse, mais une partie de la réponse, dirais-je. Et nous contribuons de bien des manières différentes et nous travaillons main dans la main avec l'Union sur ce terrain. Madame Kaile, je me félicite du travail que vous faites au sein de l'Assemblée parlementaire avec l'OTAN, qui est très important pour l'OTAN. J'étais quant à moi, député pendant de longues années, depuis 1991. Et je sais à quel point les parlements jouent un rôle important, qui décident de la législation, qui décident du cadre législatif et décident également des budgets. Impossible d'avoir une politique de défense et de sécurité forte sans le soutien des parlements. Et l'Assemblée parlementaire est un lien entre les parlements nationaux et l'OTAN. Et je vous remercie infiniment dès lors du travail que vous faites au sein de cette Assemblée. Nous travaillons sur le domaine des exercices et différents projets, à Abril notamment, et tout projet qui va dans le sens d'échange d'informations. Alors, est-ce que je m'attends à des surprises de la part de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de Saïma? Non, je ne m'attends pas. Évidemment, quand on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des surprises, c'est un peu là qu'on est peut-être confronté à des surprises. Enfin, nous verrons. Peut-être allez-vous pouvoir planifier cette réunion, surtout à ce qu'il n'y ait pas de surprises. Mais bien sûr, il y a 28 chefs d'État et de gouvernement qui feront comme ils voulont. Coopération entre l'Union et l'OTAN et l'importance pour l'Union de pouvoir agir de manière autonome. Oui. Nous sommes deux organisations indépendantes. Nous avons nos procédures décisionnelles autonomes. Mais, d'une certaine manière, nous sommes liés. Nous partageons une grande partie des membres, même ceux qui ne sont pas membres des deux organisations, sont également des partenaires ou ont des liens importants. Nous, la Norvège, n'est pas membre de l'Union, mais nous coopérons étroitement avec l'Union. La Suède et la Finlande ne sont pas membres de l'OTAN, mais sont des partenaires de l'OTAN, qu'un d'autres encore. Donc, effectivement, nous sommes une grande famille. interconnectés, liés. Et il faut bien sûr respecter nos autonomies respectives, nos différences, sans oublier à quel point nous sommes liés. Alors, autre chose, et cela même, je vais répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées. L'Union peut faire beaucoup et dispose de bon nombre d'outils dont ne dispose pas l'OTAN, des outils que je qualifierais de diplomatiques ou autres. Mais lorsqu'il s'agit de la défense collective, notamment pour ce qui est de ses alliés européens qui sont membres de l'OTAN, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Union assume cette responsabilité-là. L'Union elle-même l'a dit, cette coopération de défense européenne ne remplace pas la défense collective que fournit l'OTAN à ses alliés. Alors, lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union, eh bien, quelques 80% des investissements en matière de défense de l'OTAN ne seront plus européens. 3 sur 4 bataillons que nous déployons sur le volet Est, comme moyen de dissuasion, seront dirigés par des alliés non européens, Canada, Royaume-Uni et États-Unis. Bon, on a peut-être un point de vue différent sur différents alliés, mais la Turquie est importante pour la sécurité de l'Europe. C'est un grand allié sur notre flanc sud. L'Albanie aussi. Et évidemment, à l'ouest, nous avons le Royaume-Uni qui ne sera plus membre de l'Union et le Canada et les États-Unis. Et au nord, il y a des pays extraordinaires comme l'Islande, la Norvège. Donc ces pays européens qui ne sont pas membres de l'Union. Que veux-je dire par là? Nous sommes des organisations autonomes. Nous devons respecter nos différences, mais la défense collective des alliés de l'Union, c'est une responsabilité première de l'OTAN. C'était une réponse peut-être longue, mais je pense avoir répondu à différentes questions en même temps. Monsieur Fleckenstein, partenaire de l'OTAN, et la question des partages de la charge et l'efficacité. Vous avez été nombreux à soulever cette question. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, il faut dépenser mieux et plus. Mais ce n'est pas où. Alors, nous sommes obligés d'augmenter les investissements et de les rendre plus efficaces. Je comprends parfaitement que certains décideurs politiques voudraient consacrer davantage à la santé, l'éducation, l'infrastructure, plutôt que consacrer à la défense. Lorsque j'étais ministre de la défense en Norvège au cours des années 90, j'ai réduit le budget de défense de la Norvège parce que c'était juste après la guerre froide et pour tous les alliés européens ont réduit leur budget et la tension a baissé et on peut parfaitement comprendre que dès lors le budget baisse. Mais au fur et à mesure que les tensions s'exacerbent, il faut aussi augmenter les budgets, ce qui est le cas maintenant. Et je suis, en tant que secrétaire général, également responsable de ce budget. Donc, il faut les baisser, mais augmenter les budgets au moment où les tensions se font plus vives. Alors, une autre question sur le Brexit, je crois. Madame Norvégienne, je ne sais pas franchement comment vous répondre, ni quoi en dire. Je me suis battue en faveur d'une adhésion de la Norvège à l'Union quand c'était en 94. Nous avons organisé un référendum en Norvège. Et comme vous savez, le seul pays qui a négocié un traité d'adhésion avec l'Union, pas une fois, mais deux fois, en 72 et en 94. Et refusé, pas une fois, mais deux fois dans le cadre référendum. Et moi, j'étais perdant les deux fois. Donc, je ne suis pas franchement pour ce modèle norvégien. Je me suis battue contre ce modèle parce que je voulais adhérer à l'Union. Bon. En vain, malheureusement, mais voilà, maintenant je suis le plus proche possible d'une désir de l'Union étant secrétaire général de l'OTAN. Mais puisque, si on n'est pas membre, alors ce modèle norvégien, dans le cas de l'UE, c'est un bon exemple. Et ça permet effectivement une plus grande intégration au sein de l'Union. Alors, autre question. Les élections américaines et le président Trump. Le président Trump, au cours de toutes mes conversations, a toujours dit de manière constante et permanente que les États-Unis restent engagés envers le lien transatlantique, envers l'OTAN. C'est ce qu'il a dit. Il a été élu, c'est ce qu'il a dit juste après son inauguration, au mois de janvier, et c'est ce qu'il m'a dit il y a 15 jours à peine lorsque je l'ai rencontré à la Maison-Blanche. Bon, l'OTAN est une alliance de 28 démocraties qui élisent des personnes de différents partis ayant des points de vue différents. Mais quelle est la force de l'OTAN? C'est qu'à chaque fois, nous avons été en mesure de prouver qu'en dépit de ces différences politiques, nous avons toujours réussi à nous mettre d'accord sur les tâches essentielles de l'OTAN, c'est-à-dire de nous protéger les Indes, de nous défendre et de bien reconnaître que nous sommes plus forts ensemble que seuls. Et une OTAN forte, c'est bon pour l'Europe, mais également pour les États-Unis. De grandes guerres et la guerre froide m'ont montré que la stabilité en Europe est très importante pour l'Amérique du Nord, pour le Canada et les États-Unis. N'oubliez pas que la seule fois où l'article 5 est invoqué, c'était à la demande des États-Unis. Et des centaines de milliers de soldats européens ont travaillé côte à côte avec les soldats américains d'Afghanistan. Et des milliers ont perdu la vie dans ces opérations militaires. Et cela a été fait à la demande des États-Unis. Donc, en tant qu'Européen, il faut le savoir, il faut rappeler le monde qu'effectivement, l'OTAN est important pour le nombre d'alliés européens, mais également pour l'Amérique du Nord. Alors, la Russie, brièvement, c'est une question de défense et de dialogue. Nous augmentons la présence sur le volet oriental, pas pour provoquer, mais pour prévenir un conflit avec la Russie. Je l'ai dit à maintes reprises que mon expérience en tant que décideur politique montre qu'il n'y a pas de contradiction entre le dialogue et la force. Si vous êtes fort, si vous êtes prévisible, si vous travaillez de concert avec les alliés, il est possible de travailler et de parler avec les Russes. Nous avons une frontière commune terrestre avec Russie et nous avons pu mettre au point des relations de travail pragmatiques avec les Russes, non pas en dépit du fait que la Norvège soit membre de l'Union, mais parce qu'elle en est membre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous engager avec un dialogue avec la Russie, qui est un voisin qui restera là, qui ne va pas disparaître. Il faut essayer de faire disparaître ou d'abaisser ces tensions pour améliorer les relations. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux qu'il était possible de réactiver le dialogue politique avec la Russie, parce que nous devons rechercher une relation plus constructive avec la Russie. Alors sur la Turquie, la Turquie est une alliée importante en raison de sa position géopolitique à côté de la Syrie, de l'Irak, de la Russie, aux mers Noires. Et il nous aide également pour ce qui est de la crise des réfugiés. Il y a eu beaucoup d'attaques, des agressions, un coup d'État en juillet dernier. Et la Turquie se doit bien sûr aussi de se protéger et de poursuivre ceux et les auteurs du coup d'État. Mais je m'attends à ce que tous les alliés adhèrent à nos valeurs communes, l'État de droit, démocratie, j'en ai discuté dans bon nombre de capitales européennes, Ankara aussi. Ces valeurs sont importantes pour l'Alliance. Elles sont importantes également pour le secrétaire général. Certains officiers turcs, effectivement, ont demandé l'asile. C'est aux alliés de l'OTAN d'en décider, d'analyser et d'évaluer la situation, de décider s'il y a lieu de leur accorder l'asile ou non. Ce n'est pas à l'OTAN de prendre ce type de décision. Enfin, il y a une unité de planification qui sera mise en place. Il ne m'appartient pas de faire de commentaires sur le mandat de cette institution. Je me félicite et que l'on ait clairement dit qu'il ne s'agit pas du tout de faire des doublons par rapport à l'OTAN. C'est un bureau ou une unité radicalement différente du siège militaire de l'Union, de l'OTAN. Est-ce que nous avons été en mesure de respecter les différents pays neutres? Oui, bien sûr, tout à fait, absolument. Une des forces de l'OTAN, c'est précisément d'avoir été capable de coopérer avec des pays neutres. La Finlande, la Suède sont des partenaires étroits de l'OTAN, tout comme l'Autriche, qui participe à des exercices, contribue également à la force de réaction, de réponse au Kosovo, en Afghanistan. Donc nous sommes parfaitement capables de coopérer avec les pays neutres, avec Malte par exemple. Les partenaires souvent sont neutres et nous pouvons parfaitement coopérer avec eux tout en respectant leur neutralité. Pour la Suède, vous avez parlé de la migration et des moyens militaires. Bon, bien sûr, une réaction militaire n'est pas la première réaction à laquelle nous songeons face aux réfugiés. Mais bien sûr, ça peut aider lorsqu'il s'agit de gérer la crise. Et ce que nous faisons grâce à notre présence en mer d'Égée, aider la Turquie à mettre en œuvre l'accord conclu avec la Turquie. Et nous avons permis de réduire de manière importante le nombre de migrants traversant la Méditerranée. Et je crois que c'est aussi une présence dissuasive en Afghanistan. Alors 2%, d'accord avec vous. Il faut nous concentrer sur l'output, pas l'input. Résultat, mais il faut effectivement que ces 2% soient dépensés de manière efficace. Borghesio, Monsieur Borghesio, la question de la migration, réfugiés et accueil des réfugiés, et pour cela il faut mettre en œuvre des moyens qui ne sont pas forcément des moyens militaires, en dehors de l'OTAN, mais l'OTAN prête main forte par le biais de sa présence en mer d'Égée, mais en améliorant également le partage des renseignements, la manière dont nous collectons et échangeons les renseignements. Et nous en discuterons plus avant lors de notre rencontre du 25 mai. Alors, le représentant de la Grèce. Grèce, Turquie. La Grèce et la Turquie sont deux alliés au sein de l'OTAN que nous apprécions, les deux, qui coopèrent au sein de l'OTAN et ont démontré qu'ils sont capables de coopérer face à des défis concrets. Par exemple, au niveau des opérations en mer d'Égée. Une raison pour laquelle nous avons réussi en mer d'Égée, c'est précisément parce que nos deux alliés, la Turquie et la Grèce, ont pu travailler ensemble, dans le cadre de l'OTAN, bien sûr. Je n'ai pas été en mesure de me montrer plus bref que ceci, mais voilà, j'en ai terminé pour le moment.
Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Monsieur Stoltenberg, je vous propose 11 minutes pour les orateurs suivants. Je vais essayer d'intégrer le maximum d'orateurs. Ensuite, un dernier tour de table avec le secrétaire général de l'OTAN. Je recommence par les groupes. Monsieur Dangean.
Merci. 2 minutes maximum.
Présent.
2 minutes maximum.
Suffira, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire général, l'instabilité ambiante rend évident le rôle de l'OTAN en matière de dissuasion et en matière de défense collective. Vous l'avez rappelé, le cœur de métier de cette organisation. Concernant les défis qui se posent sur notre flanc sud, instabilité régionale, État failli, terrorisme, je peine un peu plus à voir quel peut être le rôle de l'OTAN, quelles peuvent être les missions de l'OTAN sur notre flanc sud, donc quels sont les pays avec lesquels vous envisagez des partenariats sur le flanc sud, et dans la lutte antiterroriste, même si j'apparais parfois un peu militariste dans cette Assemblée, je crois paradoxalement que vraiment le rôle du militaire en matière de lutte antiterroriste, il est très marginal. et que tout se joue d'abord en matière de renseignement, de police et de justice. Et donc, quand l'OTAN parle d'antiterrorisme, j'adhère sur le principe, mais je me pose beaucoup de questions sur la mise en œuvre concrète d'une politique antiterroriste par l'OTAN. Merci.
Thank you, Arnaud. And now,
merci. Monsieur Bostinaro, SED. Merci. Monsieur le secrétaire général, je vais commencer par vous dire à quel point la contribution de l'OTAN est fondamentale à la sécurité du centre de l'Europe. Elle est unique, irremplaçable, et cela doit être dit haut et fort. Deuxième remarque, notre pays fait le maximum pour atteindre ce niveau, cet objectif d'au moins 2 points du PIB en termes de dépenses. C'est une contribution modeste mais importante à la défense de l'OTAN en général. Alors, 2 questions très brèves qui concernent ma région. Je suis d'ailleurs roumain. Comment évaluez-vous la situation sécuritaire en mer Noire et son impact sur la position entre l'Union et l'OTAN, et puis, conséquence, quel est le risque réel de voir la Russie accéder à la mer Noire et à l'est de la Méditerranée, à cette volonté d'obtenir un accès? Groupe ECR, David Cameron, merci. Monsieur le secrétaire général, il y a un véritable ordre du jour en faveur d'une armée unique européenne. On l'a entendu l'année dernière dans le discours de l'Union du président Juncker, mais c'est une menace pour l'OTAN parce que des Allemands sont en deçà des objectifs de 2%. Monsieur McAllister, vous le savez. Et on voit le risque de détourner des ressources, de doublons dans le domaine de la défense, avec le danger également d'éloigner les États-Unis et le Canada. Je pense que les États-Unis représentent 17% des dépenses de l'OTAN. Alors, je pense que vous faudrez s'opposer à cette armée unique plutôt que de rester en retrait. On va tout simplement utiliser les mêmes capacités en les réétiquetant en quelque sorte. Madame Harms, pour les Verts.
Thank you. So...
Oui, merci beaucoup. Je suis allée à Rukla récemment avec des troupes de l'OTAN postées en Lituanie et nous avons évoqué les défis auxquels ils sont confrontés avec d'autres soldats de l'OTAN dans la région. Et honnêtement, j'aimerais que l'on comprenne un peu mieux ce qu'il en est des chiffres sur les soldats, les capacités, l'équipement, avec des investissements massifs ces dernières années face à des investissements importants de l'armée russe. Qu'en est-il des besoins? Où devons-nous faire plus en termes d'investissement? Et après ma visite, je peux vous dire que les soldats s'interrogent. Merci. Monsieur Schaffhauser, ENF.
Je constate que, monsieur le secrétaire général, que vous avez des perspectives pour la France favorables à votre prochain sommet. Vous savez que notre force politique est pour une sortie de l'OTAN. Elle représente maintenant le premier parti de France. Elle peut gagner. Pourquoi une sortie de l'OTAN? Parce que nous pensons qu'il faut un monde multipolaire, que l'OTAN est souvent une arme de déstabilisation massive et non pas de stabilisation. Elle l'a montré dans les différents conflits. Je ne rappellerai pas l'Irak et tout ce qui se passe actuellement. Et j'aimerais aussi souligner auprès de mes collègues que s'il y avait un conflit entre les États-Unis et la Russie, le champ de bataille serait l'Europe, car ce ne sera pas sur le terrain de la Russie ni sur le terrain des États-Unis, compte tenu des puissances nucléaires respectives. Donc effectivement, ce que nous voulons, c'est une France qui s'inscrive comme puissance dans un monde multipolaire. Nous voulons atteindre cette capacité qu'a la Russie actuellement d'être un partenaire avec peu de moyens. La Russie, c'est la moitié du PIB de la France. Donc ce n'est pas les moyens extraordinaires, c'est la moitié du PIB de la France et pour autant c'est une capacité de défense extraordinaire. Donc voilà notre projet et cela amènera tôt ou tard un changement de l'OTAN. C'était la perspective du général de Gaulle qui a toujours été un partenaire, malgré tout, quand il fallait. Nous serons aussi des partenaires, toujours. Mais cela engage un profond changement dans votre organisation. Je vous remercie.
Merci. Right, we've got...
Merci. Il nous reste 4 minutes et je vais donner la parole aux orateurs PPE et CD et puis améliorer l'équilibre homme-femme. Madame Mainescu, merci beaucoup, monsieur le président. Merci, monsieur le secrétaire général. Après cette longue période, vous avez dit que nous avons effectivement assisté à un changement positif dans les dépenses des membres de l'Union européenne. Et comme vous l'a dit mon collègue, la Roumanie est rentrée dans le club très restreint des 2% de PIB consacrés à ces dépenses. Et nous avons, je pense, le besoin de nous concentrer sur ces menaces qui ont été évoquées, hybrides ou les cyberattaques. Et pensez-vous qu'une plus forte proposition de ces nouvelles ressources doivent être utilisées pour faire face à ces nouvelles menaces, parce que la grande majorité des dépenses militaires sont encore consacrées à des capacités traditionnelles et le nouveau centre d'excellence européen pour lutter contre ces menace hybride n'a un budget que d'1,5 million d'euros. Donc ça m'amène à vous demander comment vous envisagez la coopération entre l'Union et l'OTAN dans le cadre de stratégies communes sur des points communs face par exemple à la situation changeante en Turquie qui éloigne de plus en plus ce pays des valeurs communes que nous partageons dans l'Union européenne et dans l'OTAN, alors que nous ne voulons pas que la Turquie quitte l'OTAN et je n'aimerais pas envisager un avenir où l'OTAN ne serait plus membre de la Turquie ne serait plus membre de l'OTAN, où la mer Noire appartiendrait à la Russie et où nous aurions des difficultés à nos frontières orientales. Madame Gomez SED, général, pourquoi doit-on continuer à mettre en œuvre ces fameuses missions maritimes en Libye si personne n'a jamais et n'abordera jamais la question de réforme de DDR, parce que c'est une priorité. À l'époque, le Premier ministre de Libye est venu implorer l'Union et l'OTAN d'intervenir et rien ne s'est fait. Alors, bien entendu, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus délicates et tout cela se révèle inutile. Et puis, pour la Turquie, moi, je suis portugaise. Notre pays a été une dictature, peu importe à l'OTAN, mais enfin, c'est vrai que c'était l'époque de la guerre froide. Et peu vous chaud que la Turquie, maintenant, vire à la dictature? Merci. Monsieur Stettina, une minute. Et à ce moment-là, je pourrais donner la parole à tous ceux qui avaient demandé la parole. Oui, merci beaucoup, général. Vous avez dit que vous vous féliciteriez d'une meilleure autonomie de la défense européenne, mais il y a 3 ans, lorsque nous vous avons reçu ici, il y avait une certaine jalousie de la part de l'OTAN qui semble avoir disparu. Donc, quelle serait la répartition des tâches, monsieur Stoltenberg, dans le cadre de la défense de l'Europe, surtout face aux défis russes? Monsieur Weigel?
Monsieur
le secrétaire général, récemment, vous avez soutenu la création d'un nouveau gouvernement et du respect des règles de démocratie parlementaire en Macédoine. Votre soutien a été particulièrement bien accueilli à Skopje. Voici ma question. Que pourriez-vous, que pouvez-vous faire pour aider la Macédoine à devenir membre de l'OTAN? Il est totalement absurde de voir, à cause d'un problème de dénomination, qu'un pays qui a des problèmes particuliers, qui est un des éléments clés de la stabilité dans la région, n'ait pas l'opportunité de devenir membre de l'OTAN. Monsieur Kelam? Oui, merci beaucoup. Deux questions. Dans le cadre de la déclaration de l'OTAN de décembre, on met l'accent sur la coopération entre le centre de communication stratégique, le centre d'excellence et Stratcom de l'Union. Qu'est-ce qui a été fait concret dans ce domaine? Ne pourrait-on pas envisager une coopération renforcée, partage d'expertise, d'informations sur une base régulière et structurée? Serait-ce possible? Deuxième question. Un certain nombre de pays européens développent maintenant des capacités d'attaque cyber. Et l'OTAN a déclaré qu'elle n'irait pas dans ce sens. Comment allez-vous aborder cette question à l'avenir? Est-ce qu'on pourrait envisager à l'OTAN un débat sur le développement de capacités cyber offensives? Parce qu'il ne faudrait pas envisager un commandement, une composante cyber, en plus de commandement traditionnel, terrestre, aérien, maritime, etc. Et qu'en est-il des exercices conjoints? Merci, Mme Savko. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Je voudrais m'associer à mes collègues en vous posant la question sur le rôle ambigu joué par la Turquie, surtout dans les Balkans occidentaux. Qu'auriez-vous à dire et que pourriez-vous faire si la Bosnie-Herzégovine, parce que l'OTAN a joué un rôle premier pour mettre fin à la guerre, aujourd'hui les temps ont changé, ce ne sont plus les mêmes acteurs dans le pays, donc comment aborder la question de l'absence de démocratie en Turquie et dans ce pays lorsque vous demandez que l'on applique les valeurs humaines, que l'on respecte les démocraties? C'est un très mauvais exemple, un mauvais signal qui est envoyé. Je sais que la Turquie joue un rôle premier, mais les forces européennes s'entraînent avec une armée, participent à des opérations de paix. Pourriez-vous mieux nous expliquer le rôle de la Turquie et que pouvez-vous faire pour que publiquement on aborde la question? Merci. Monsieur Kukan. Merci. Bienvenue, Monsieur le Secrétaire Général. Deux questions. À la suite du sommet de Varsovie et du changement à la tête de l'administration américaine, comment envisagez-vous la coopération entre les deux? Quel est le grand défi pour renforcer cette coopération? Deuxième remarque, bravo pour avoir fait entrer le Monténégro dans la famille. Comment évaluez-vous la situation de sécurité dans les Balkans occidentaux? Parce qu'il y a une évolution en interne qui nous amène pas un problème politique, mais qui amène un risque en termes de sécurité. Et je pense qu'il faut faire part de nos préoccupations les plus graves. Monsieur Fonsulika? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, vous travaillez pour que l'on renforce la défense européenne à l'avenir, en évitant tous les doublons dans le cadre de la totale complémentarité, en essayant d'éviter les dépenses inutiles de l'argent du contribuable européen. Alors, il y a des pays qui sont membres des deux organisations et ces deux organisations promeuvent et défendent les mêmes valeurs. Pensez-vous qu'il serait peut-être temps pour ces deux organisations, l'Union et l'OTAN, d'entamer des négociations pour aboutir à un accord opérationnel pratique pour que l'Union européenne ait accès aux capacités de l'OTAN pour des missions de l'Union dans trois domaines en particulier, structure de commandement, capacité spatiale et capacité de transport de troupes et d'équipements à longue portée. Ce serait un excellent exemple pour les citoyens du monde occidental qui défend et promeut les mêmes valeurs dans ces périodes troublées. Merci. Je vais donner le dernier orateur. Merci, Monsieur le Président. Certains collègues ont posé des questions sur des pays individuels dans les Balkans occidentaux. Pourriez-vous partager avec nous vos réflexions, s'il vous plaît, sur les Balkans occidentaux, sur l'ensemble de la région? Merci. Eh bien, chers collègues, 26 orateurs ont participé à cet échange de vues. Monsieur le secrétaire général, vous avez maintenant le défi de répondre à toutes ces questions de la façon la plus complète et brève, mais vous n'avez pas eu assez de questions, donc je poserai moi-même une question. L'Albanie est membre de l'OTAN et l'Albanie connaît une sérieuse crise politique depuis des mois. Des commentaires de votre côté sur la situation en Albanie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que pour être le plus efficace, je vais répondre à aborder les questions qui ont été évoquées par plusieurs personnes. Donc, je vais essayer de répondre aux thèmes qui ont été évoqués. La Roumanie, vous êtes deux à avoir la révoqué. La Roumanie fait des progrès parce qu'elle a déclaré qu'elle atteindra l'objectif des 2% cette année. Et cela souligne que c'est possible pour les alliés européens, possible d'atteindre cet objectif de 2%. Donc, je m'en félicite. Bravo à la Roumanie. Ensuite, nous faisons beaucoup pour les menaces hybrides. Alors, comment les contrer? Parce que il y a peu de temps d'alerte et il faut que nous ayons une présence renforcée, nous pouvons y réagir. Et puis, il y a les cyberattaques. Et tout cela est lié à ces menaces hybrides. Nous avons renforcé nos capacités cyber, notre défense cyber, nous permettant de protéger le réseau de l'OTAN, celui des pays également. Nous avons développé des équipes qui peuvent être déployées pour aider à la protection des réseaux qui sont sous attaque cyber. Nous réalisons des exercices et aujourd'hui nous allons créer un domaine militaire cyber, donc à côté des domaines classiques, et donc nous adaptons nos défenses cyber et nous aidons les pays à le faire. L'OTAN ne participe pas au développement de capacités offensives, mais certains de nos alliés possèdent ces capacités. Je pense avoir répondu à de nombreuses questions en évoquant le volet hybride et cyber. La coopération entre l'Union et l'OTAN, comment la vois-je? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons atteint un excellent nouveau niveau de collaboration. Nous avons encore un grand potentiel, on peut faire beaucoup plus, mais nous faisons beaucoup plus qu'auparavant. Et l'année dernière, nous avons réussi à atteindre deux accords officiels entre l'OTAN et l'Union sur le cyber et sur nos activités en mer Égée. Ce sont des autant d'accords officiels signés en un an qu'en 10 ans. Donc, il y a une véritable différence dans notre collaboration. Vous avez été nombreux à évoquer la Turquie. Et certains d'entre vous ont déclaré que la Turquie est importante pour l'Europe, pour l'ensemble de l'Europe, parce que c'est un pays qui est sur la ligne de front dans la lutte contre l'État islamique Daesh en Syrie et en Irak. Et ils ont des bases, on utilise l'infrastructure turque pour lutter contre l'EI et Daesh. Et certains d'entre vous ont évoqué la mer Noire. Bien entendu, la Turquie est un élément clé dans cette région de la mer Noire pour réagir face au renforcement militaire majeur russe, surtout en Crimée. Et donc, il est important pour l'Europe, pour l'OTAN, d'avoir un allié engagé dans la Turquie engagée pour faire face à cette instabilité au sud, au terrorisme, mais également pour réagir à une position plus agressive de la Russie dans la région de la mer Noire. Et encore une fois, la démocratie, l'état de droit sont des valeurs fondamentales de l'OTAN dans de nombreuses réunions. Ankara, je l'ai évoqué, nous sommes une ligne de sécurité, mais nous reposons notre que j'envoie à nouveau et à nouveau. On m'a posé des questions sur la Libye. C'est Madame Gomes, je crois, qui m'a parlé de la Libye et je suis totalement d'accord avec vous. Nous devons mettre en place des institutions de la sécurité parce que former des forces, mais sans structure dans lesquelles les insérer, cela renforce l'instabilité. Nous avons donc besoin d'un ministère de la Défense qui garantit le contrôle civil sur les forces militaires et vice-versa, avec un commandement en chef interne, des ressources, et l'OTAN discute avec le gouvernement reconnu par les Nations Unies. J'ai discuté avec M. Malach il y a quelques semaines. Ces experts rencontrent les experts de l'OTAN pour voir ce que nous pouvons faire pour les assister, leur permettre de mettre en place ces institutions de défense. Ce n'est pas facile, ce sera un long chemin à parcourir, mais je pense qu'effectivement, nous devons aborder cette question importante des institutions. Cela semble bureaucratique, mais c'est extrêmement important. Monsieur Stettina, sur la répartition des tâches ou des responsabilités entre l'Union et l'OTAN. Eh bien, je ne peux que m'exprimer au nom des membres OTAN, entre autres membres OTAN qui sont également membres de l'Union européenne, mais ils ont très clairement affirmé que pour les membres de l'Union qui sont membres de l'OTAN, la défense collective n'est pas le rôle de l'Union, c'est la responsabilité essentielle, fondamentale de l'OTAN. Et cela va sans dire, parce que la force de la défense collective de l'OTAN dépend bien entendu de l'unité entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Canada et les États-Unis qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc la façon dont on établit le lien entre l'Amérique du Nord et cette partie de l'Europe permet de garantir la sécurité de l'OTAN. Alors je sais qu'il est important d'être très clair sur ce plan, parce qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir une approche très pragmatique, très constructive sur un grand nombre de points, les 2% et d'autres éléments, par exemple, qui permettent de renforcer la coopération. Et comme je l'ai déjà dit, surtout si le Royaume-Uni quitte l'OTAN, dit l'orateur, non, l'Union européenne, se reprend-il? Nous verrons que nous aurons un nouvel équilibre, que 80% des dépenses seront non Union européenne. Et donc, on aura absolument besoin de leur apport pour cette défense collective. Ensuite, pour revenir à la remarque de M. Dangean sur le partenariat, sur le flanc sud et sur la lutte contre le terrorisme, je suis d'accord avec vous pour dire que de nombreuses mesures que nous devons mettre en œuvre dans la lutte contre le terrorisme n'ont rien à voir avec l'OTAN. Il s'agit d'opérations de police, de renseignement, de contrôle aux frontières, de lutte contre l'idéologie, de mesures politiques, économiques, toute une série de mesures qui n'ont rien à voir avec l'OTAN. Mais cela ne signifie pas que l'OTAN joue un rôle marginal. Le rôle de l'OTAN est très important, loin d'être marginal. Des centaines de milliers de soldats OTAN ont lutté en Afghanistan et leur dire qu'ils ont joué un rôle marginal, c'est le mauvais message à leur envoyer. La seule raison pour laquelle nous sommes en Afghanistan, c'est à cause des attaques terroristes contre les États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés en Afghanistan pour empêcher l'Afghanistan de devenir un paradis, un abri pour les terroristes. Et c'est ce que nous faisons. Donc il faut bien comprendre que la plus grosse opération de l'OTAN jamais mise en place nous permet de lutter directement contre le terrorisme. Et je ne vais pas dire à toutes ces personnes qui sont allées en Afghanistan qu'ils ont joué un rôle marginal. Non, ils ont joué un rôle très important et ont permis de créer une armée afghane, 350 000 soldats et policiers qui désormais peuvent assumer la responsabilité de la sécurité dans leur pays dans le cadre d'opérations où ils font le travail pénible de lutter contre le terrorisme. Donc, lorsque nous avons aidé la coalition pour lutter contre l'État islamique avec des avions AWACS, le soutien pour les opérations aériennes, c'est la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un rôle marginal, c'est une contribution importante à la lutte contre le terrorisme. Donc oui, c'est vrai, nous avons de nouveaux éléments qui n'ont rien à voir avec l'OTAN, mais certains sont militaires, nous jouons un rôle clé et j'espère que nous pourrons jouer un rôle accru. Et puis, dernière remarque pour les Balkans occidentaux, c'est un point qui est lié à ceci, et le travail dans les Balkans occidentaux permet de lutter contre le terrorisme. Je suis allée en Bosnie-Herzégovine et on m'a rappelé à quel point il était important de stabiliser l'ensemble de la région des Balkans occidentaux pour lutter contre les combattants étrangers, apporter les instruments nécessaires pour faire face aux menaces terroristes. Et nous avons joué un rôle clé pour le développement d'une armée en Bosnie-Herzégovine qui est pluriethnique. Nous sommes présents au Kosovo également et nous travaillons avec des partenaires dans la région. Et bien entendu, nous sommes inquiets de la situation dans la FIROM. Le processus démocratique devrait être respecté. La majorité a le droit de décider de qui formera le gouvernement et nous suivons également de très près l'évolution de la situation en Albanie, ce qui signifie que nous souhaiterions que l'on aboutisse à une solution aux difficultés politiques avec le boycott du Parlement. Et l'Albanie est un allié de l'OTAN que nous apprécions tout particulièrement. Voilà, je crois avoir répondu à la majorité des questions. Il en reste une de Madame Harms. Pourquoi avons-nous besoin de plus d'OTAN? Pourquoi? Sur quoi agir? Alors, nous sommes très spécifiques dans ce domaine à l'OTAN. Nous demandons aux différents alliés de nous fournir les différentes capacités sur une base très concrète. Mais globalement, je peux vous dire que nous avons besoin d'une force plus lourde en termes d'armes, d'artillerie, d'armement lourd. Il ne s'agit pas de revenir à la guerre froide avec des forces, par exemple des troupes légères. On l'a vu dans les Balkans ou en Afghanistan. Nous devons être plus mobiles, pouvoir déplacer des troupes. Nous avons besoin de plus de reconnaissance, de renseignements, de surveillance pour avoir une meilleure vue de la situation, bien évaluer la menace. Et nous avons besoin, bien entendu, de quelque chose d'aussi simple que d'exercices supplémentaires pour renforcer la préparation de nos forces. Je pourrais citer de nombreux points, mais il y a énormément de capacités dans lesquelles nous devons investir plus parce que nous vivons dans un monde qui est désormais plus dangereux. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie.
Monsieur le secrétaire général Stoltenberg, au nom de l'ensemble des collègues présents, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de votre présence et de nous avoir permis de mener des débats aussi fructueux. Nous concluons qu'il est nécessaire de garder un contact constant entre l'Union européenne et l'OTAN et de renforcer notre coopération. C'est avec beaucoup d'impatience que j'attends les prochaines réunions pour poursuivre nos échanges. Je vous remercie.
And we now leave our colleagues from CNN.
Et nous allons laisser la salle à Anna Fotyga et nos collègues de la commission CD. J'invite les collègues de la commission CD à rester et saluer le secrétaire général.